Vous êtes sur RTL.
RTL sort 18h35, il publie une envie de désaccord chez Plon. Thomas, vous recevez une mère et son fils. Elle s'appelle Cécilia Attias, lui, c'est Louis Sarkozy.
Bonsoir Cécilia Attias.
Bonsoir.
Bonsoir Louis Sarkozy.
Bonsoir.
Et bienvenue à tous les deux dans RTL Soir. Ce livre, cette envie de désaccord au pluriel, c'est un peu un ovni car il s'agit en fait d'un échange de lettres entre une mère et son fils. Vous vous écrivez chacun votre tour et vous devisez sur tous les sujets de votre relation, mais aussi des grands sujets de ce monde. Il faut s'écrire pour réussir à se parler aujourd'hui.
Mais quand vous le présentez comme ça, ça a un côté un peu désuet qui me fait rêver. C'est vrai qu'on a un peu la nostalgie de l'époque où on écrivait des belles lettres à la personne que l'on aime, où on débattait d'idées en allant jusqu'au fond, des sujets. Et on a eu envie de mettre par écrit nos discussions qui sont animées à la maison. Et je pense qu'un échange de lettres, c'était intéressant et différent.
Ouais, en fait, l'écrit nous sauve, si je peux me permettre, parce que dans la salle à manger, on a les mêmes conversations, mais ça part très vite en live, comme on dit. Ça devient du ad hominem, de l'émotionnel. Et l'écrit, ça nous force d'abord à lire, à comprendre et aussi à penser à ce qu'on va dire quand on répond. Et donc, ça nous sauve un peu du hijack.
Parce qu'on est obligé de lire jusqu'au bout, évidemment,
Absolument.
Alors qu'on peut couper la parole.
Et puis, on peut surtout effacer ce qu'on a commencé à écrire. Et on n'a pas ce luxe-là avec la parole.
Alors, ça dit, vous prenez un petit scud au passage, hein, Louis. Hein. Nous sommes peut-être insignifiants dans l'univers, mon fils, mais tu feras quand même l'effort de décrocher ton téléphone la prochaine fois que je t'appelle. Jamais un petit grain de sable n'a été aussi agaçant que toi dans tout le cosmos.
Mais qu'exagération.
Non, mais pas du tout. Et tu sais très bien que j'ai raison.
C'est vrai qu'il est exaspérant.
Il ne répond pas au téléphone quand je l'appelle. Mais c'est pas grave. Au bout de 10 appels, il en a tellement
mensonge.
Il finit par répondre.
Je comprends pourquoi vous écrivez. Hein. Effectivement, on comprend. Alors, vous avez un point commun, un accord parmi ces désaccords. Ce sont vos doutes quant à vos légitimités respectives pour l'écrire ce livre. Alors, je vous lis, Cécilia. Qui suis-je à part une ex-première dame éphémère en France dont la séparation d'avec son époux, ton père, a défrayé la chronique? Ça, c'est ce que vous écrivez. Et Louis, je ne suis personne pour écrire cet ouvrage. Qui est ce petit con qui ose s'immiscer dans les débats de la religion, la politique, la philosophie? Je prends le risque de paraître ridicule en osant écrire. Mais alors pourquoi vous l'avez écrit ce livre?
Parce qu'on s'est vraiment posé la question avant de l'écrire. On avait vraiment envie de débattre d'un certain nombre de problèmes. On s'est posé la question, on se dit après pourquoi pas? Après tout pourquoi pas? Allons-y et tentons.
J'ose parce que j'avais peur de regretter. Parce que déjà c'est exceptionnel ce bienvenu médiatique qu'on a. Ouais. Tous les auteurs publient des choses bien plus intéressantes et non pas 10% de ce que nous avons. Et surtout parce que j'ai trouvé qu'il y avait une fibre vraiment profonde de parler à sa mère de la mort, de parler à sa mère des femmes, de la religion, etc. Et je ne voulais pas dire non à cette opportunité.
Cécilia, est-ce que vous cherchez à vous faire pardonner des choses vis-à-vis de Louis?
Ah, c'est une excellente question. Non, je ne cherche pas à me faire pardonner, mais peut-être à lui faire comprendre des choses, parce qu'il a écrit des mots qui m'ont touché, des mots qui m'ont ému et qui m'ont même étonné. Et pas me faire pardonner, mais peut-être lui expliquer un certain nombre de choses, parce qu'il était tout petit et que, bon, il n'est pas très vieux maintenant, il a 22 ans, mais je trouve que c'est pas mal d'essayer, avec mes mots et avec mon expérience, de lui faire passer un certain nombre de messages.
Je vais vous citer quand même, un servir son pays comme ton père l'a fait et moi dans sa foulée est un privilège qui implique beaucoup de sacrifices, sacrifices pour les familles aussi, et ce choix, ton papa et moi l'avons fait, je l'avoue, sans vraiment en imaginer les conséquences pour vous, sur vous.
Comment vouloir à ses parents après avoir une vie si belle, si privilégiée? Je suis parti dans une école militaire à Valleyforge après pour essayer de peut-être inconsciemment de m'enfuir de tout ce luxe-là, mais non, vous rigolez, j'ai vécu dans plein de pays différents, j'ai des amis sur tous les continents, je n'ai aucune plainte à faire.
Ouais, mais avec le recul de vos 22 ans, Louis, cette enfance, fils de président de la République, enfant d'un couple qui a divorcé publiquement, malgré vous, hein, quand les journalistes s'amusaient à voir si votre père portait ou non son alliance pour savoir où vos parents en étaient, elle vous a fait souffrir ou pas?
Oh oui, sûrement, mais tout ça me passe un peu au-dessus de la tête, vous savez.
Ouais.
Et pour revenir au sujet du livre, c'est quand même une grande remise en question qu'on se fait tous les deux. Et quand on aborde tous ces sujets-là, malgré notre passé extrêmement médiatique, je trouve que c'est un bon remède.
Et puis je trouve que c'est formidable d'avoir l'opportunité de parler avec son fils de 22 ans. Parce que je trouve que la communication entre les générations est de plus en plus difficile aujourd'hui. Je trouve que l'instantanéité de l'information, les Twitter et autres, n'aident pas à la communication et d'aller
sur le
fond.
En tout cas, vous êtes fort en communication, parce que quand on pose une question qui ne vous plaît pas trop, tac, on reboucle sur le contenu du livre. Louis, vous racontez donc votre choix d'aller dans une école de type militaire aux États-Unis. Elle s'appelle Valleyforge. Là-bas, vous décidez de changer de nom pour devenir Louis Adams et vous écrivez par une étrange ironie du destin, c'est dans l'endroit le plus violent, hostile et étranger qui soit que j'ai réussi à m'épanouir au mieux, sans faire de psychologie de comptoir. Est-ce qu'il y a là une volonté d'échapper à cette première vie faite de dorures, de luxe où tout vous tombe dans la main? Est-ce qu'il y a une volonté de rééquilibrer le balancier ou
je dirais surtout qu'il y a une volonté d'égalité. Parce que dans mon éducation avant, soit j'étais traité mieux que les autres, soit moins bien. Et je pense que tous ceux qui ont des enfants sachent que il faut l'égalité, sinon il y a une cruauté absolument insupportable. Mmh. Et en voulant changer de nom, c'est vraiment ça que j'ai cherché. Et en rétrospection aujourd'hui, c'était limite arrogant de penser ça, parce que les petits jeunes de Philadelphie, ils s'en foutent de qui est la famille du président.
Ouais. Mais c'est pas tant le changement de nom qui est marquant que le rythme et le style d'éducation que vous avez dans cet établissement.
C'était son choix.
C'est la Schlag, Cécilia.
Oui, mais c'était son choix. Je pense que inconsciemment, il avait d'une part une fascination pour le militaire et d'autre part, je pense qu'il avait besoin de rails, il avait besoin d'un encadrement et que sans le vouloir, comme ça se passait pas très bien au lycée français là-bas, sans le vouloir, il a été tenté d'aller vers un lieu, une école qui le protégerait.
Mais vous n'étiez pas très à l'aise avec ça, vous,
Cécile? Je n'étais pas à l'aise du tout, parce que je, sans savoir où il allait mettre les pieds, je savais que ça allait pas être facile.
Vous savez, tout ça a été très dur, je l'écris, il y a eu beaucoup de moments difficiles, la routine est absolument insupportable. Quand on se dit qu'on peut pas rentrer chez soi avant quelques mois, on se fait gueuler dessus à 4h30 du matin par des cons. Excusez-moi l'expression, hein, mais, ouais. Mais je suis incapable aujourd'hui de me remémorer un seul souvenir de cet endroit sans sourire.
Sans sourire.
Oui, donc je vous laisse faire l'équation vous-même.
C'est la résilience peut-être.
Peut-être aussi, oui.
Mm-hmm. Alors vous allez sur les sujets de société, des sujets nucléaires, pour reprendre votre terme, Louis, comme la religion, sur lesquels vous n'êtes pas du tout d'accord. Vous parlez aussi du cannabis. Cécilia, vous voulez dépénaliser le cannabis. Louis, vous allez plus loin. Le légaliser serait officialiser une vérité. Je suis donc pour à 300%.
Oui, je pense que la distinction entre les vices et les crimes est très importante. Mm-hmm. Et qu'il faut que le gouvernement a un rôle de légiférer les crimes, mais pas les vices.
Ah, mais là,
je pense que
c'est la morale.
Oui, absolument.
Vous fumez, vous, pas?
Ça m'arrive socialement, mais jamais plus que ça.
Et vous, Cécilia,
la question, c'est les idées, pas les individus.
Jamais.
Jamais.
J'ai honte de le dire.
C'est vrai?
J'ai même jamais goûté.
Mais vous vous rendez compte comment les mentalités ont changé? Elle a honte de dire qu'elle n'a jamais fumé. Il y a quelques années, ça aurait été bien différent.
Vous êtes aussi sévère avec les réseaux sociaux, parfois avec les journalistes. Vous regrettez d'avoir vu votre vie étalée, l'un comme l'autre, et vous en avez souffert, et on le comprend. Et là, vous publiez un livre intime. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là-dedans quand même ? Vous dites, là, vraiment, on fouille partout, on raconte tout, on ne nous laisse pas tranquille. Et là, vous nous faites entrer dans votre intimité.
Tout ça a été extrêmement filtré. Et si je peux me permettre, les idées dans ce livre sont infiniment plus intéressantes que les personnalités.
On a essayé de mettre un cadre.
Il est fort, hein ?
Oui, il est fort. Il est fort.
Tac, une question, tac, une réponse. Allez, hors des éléments de langage, qu'est-ce que vous dites, vous, Cécilia ?
Non, je ne trouve pas qu'on a mis tellement d'intime. On a essayé de mettre nos idées dans des cadres réels. Mais ce qu'on a voulu faire, surtout, c'est un échange d'idées sur des thèmes importants. Et des thèmes entre deux générations, une mère et son fils. Alors après, il a fallu planter le décor. Et planter le décor, c'est parler un tout petit peu de notre vie. Mais je pense que ce n'est pas le fil rouge du livre.
Et d'ailleurs, je parle au lecteur quand je dis que les 50 ou les 60 premières pages, c'est une contextualisation de l'œuvre. Donc on parle un peu plus du privé et tout ça.
On est à table avec vous, pour le coup, hein, sincèrement.
Oui.
Ce qui est agréable, hein, pour le lecteur.
Parce que ces conversations se passent à table.
Ouais.
Ça, ce n'est pas un mensonge. Mais après les 50 ou 60 premières pages, on rentre dans le débat d'idées. Et j'invite les lecteurs à passer ce premier cap et s'ils veulent vraiment rentrer dans le cœur du débat.
Et on y rentre assez facilement. Louis, je m'inquiète quand même un peu pour votre dip, hein. Il faut que je vous en parle, vous lis. Comparer les femmes qui m'entourent à toi, que je le veuille ou non, est instinctif dès que je les croise. Je crains donc, mam, que tu aies mis la barre un peu haut pour mes futures expériences romantiques.
Bah oui, mais ça, je le dirais même si je connaissais ma maman comme amie.
Ouais.
Pourquoi ? Parce que cet épisode avec le colonel Kadhafi est exceptionnel. Enfin, c'est digne des récits de super-héros et c'est tout ce qu'on aime.
C'est quand vous allez aider à la libération des infirmières bulgares.
Absolument.
Vous le racontez avec force de détail.
L'épisode de la cravache, d'ailleurs, est absolument exceptionnel. Quand tu te saisis ça, c'est tout ce qu'on aime contre tout ce qu'on aime.
Racontez-nous la cravache, Cécilia, parce que c'est intéressant,
c'est une petite anecdote, mais c'est vrai que j'avais le moyen de discuter avec lui, que je voulais. C'est un acte humanitaire. Je voulais sortir ces femmes et ce médecin palestinien qui était, comme vous le savez, condamné à mort pendant et qui était dans les de Kadhafi depuis 8 ou 9 ans, personne n'avait réussi à les faire sortir. Et donc, quand Nicolas a été élu président, on a pensé que je pouvais peut-être aider d'une façon ou d'une autre en y allant. Et j'ai été reçue par le colonel Kadhafi dans un bunker absolument improbable, en sous-sol, avec des fausses fenêtres, etc. Et je rentre dans ce bureau, il n'y avait personne, des bouquins partout, il y avait sa table, il y avait une cravache sur la table. Je me suis dit, mon Dieu, je vais prendre ça, je la garde avec moi, mais comme un enfant qui essaye de se protéger de quelque chose. Ça n'a servi à rien.
C'est hollywoodien. La mission a été un succès.
Il a été très respectueux et on a pu en parler.
Vaut pas l'admiration de Thomas Soto, qu'est-ce qui vaut l'admiration?
Et ce qui est intéressant sur Kadhafi, c'est que c'est la seule critique politique que vous faites de Nicolas Sarkozy. Vous écrivez, lorsqu'en 2011, depuis New York, j'ai suivi à la télé la traque de Kadhafi puis sa mort, je me suis demandé si nous ne commettions pas une erreur de fond. Il n'y avait pas de plan B préparé avec un leader capable de prendre immédiatement les rênes du pays et d'éviter le chaos dans lequel la Libye se trouve aujourd'hui. Chaos qui fait le lit de Daesh.
Oui,
c'est une erreur ?
Écoutez, je ne sais pas si c'est une erreur ou pas, parce qu'il faut, c'est compliqué, hein. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte, mais en tout cas, vu de l'extérieur, comme moi je l'ai vécu, je pense qu'il fallait un plan B absolument avant de le... de le tuer, je pense.
En tout cas, vous avez une maman qui est très aimante, Louis Sarkozy. Comme ton père croyait au sien, je crois, en ton avenir, dit-elle. Cécilia, vous avez même dit, je pense tout à fait que Louis est l'homme politique de demain. On peut être l'homme politique de demain quand on a peur des moustiques, parce qu'on apprend aussi ça dans le livre.
L'Australie.
Non, bah, est-ce que c'est pas des moustiques de taille normale, hein. En Australie, c'est des petits chiens qui volent. Enfin, tout ça pèse 2 kilos. C'est absolument insupportable.
Vous avez le sens de la mesure, dis donc, ça me rappelle quelqu'un.
Je suis pas du tout tenté par ce pays. Pardon à tous les Australiens qui nous écoutent. Non, je n'ai absolument aucune volonté électorale. Je m'engage dans le privé. Je viens d'être diplômé de l'Université de New York et tout ça. Je ne m'y apporte pas.
Mais en fait, moi, j'ai pas l'impression que ce soit vous le candidat caché du livre, mais plutôt vous, Cécilia. Sincèrement,
j'ai plus l'âge.
Oui, mais ça vous aurait plu, vous le dites, hein. J'aurais aimé exercer un mandat.
Bien sûr. Ouais. Je suis passionnée de politique et j'aurais adoré. Je trouve que le don de soi-même à une cause, à un pays, à une patrie, à sa patrie, je trouve ça formidable. Moi, la politique, au sens noble du terme, je trouve qu'il n'y a rien de plus extraordinaire.
Louis, avec votre père, vous parlez, vous écrivez, comment vous faites ?
Je parle beaucoup des conversations, notamment sur ce livre, qui ont été extrêmement intimes. Il m'a donné des conseils et il m'a mis vraiment confiance en moi pour ce projet-là, parce qu'on en doutait jusqu'aux dernières minutes avant que tout cela sorte, et l'avoir comme présence au-dessus de mon épaule, c'est exceptionnel. Et si vous me permettez, je garderai tous ces commentaires pour moi, ces petites madeleines.
Qu'est-ce que vous n'avez pas encore osé dire à vos parents, Louis Sarkozy ?
Bah, pas grand-chose. D'ailleurs, on s'est fait la remarque qu'on n'avait pas beaucoup de tabous ensemble. Alors, j'ai des conversations très différentes entre ma mère et mon père, mais pas grand-chose. Parce que chez nous, la conversation règne.
Et vous, Cécilia, qu'est-ce que vous ne lui avez pas encore dit ? Ou à vos autres enfants, d'ailleurs ?
C'est une bonne question.
C'est une très...
Mais laissez-la répondre, hein, c'est pas possible.
C'est une question très compliquée. J'ai essayé de dire pas mal de choses, parce qu'on a abordé les sujets importants. Il y a forcément des choses qu'on ne dira pas ou qu'on ne dira jamais, tout comme lui, il a son jardin secret, en tout cas je le souhaite, et j'ai le mien, donc...
Et vous recommandez aux autres familles de s'écrire comme vous le faites ?
Ouais. Absolument, le plus possible.
Le dialogue est possible.
Moins 280 caractères et plus à l'écrit.
Ça c'est pour Twitter.
C'est pour Twitter.
Vous qui tweetez beaucoup, qui êtes beaucoup sur Instagram,
beaucoup moins que vous
c'est votre
pensez.
Côté un peu schizo ça quand même.
Oui,
hein,
oui.
Faites ce que j'écris, mais pas ce que je fais.
C'est les outils que j'ai. Non, mais c'est quand même des outils qui sont exceptionnels, instantanéité et tout ça. Et sur Instagram, par exemple, je l'utilise comme forum pour partager des petites découvertes littéraires et tout ça. Et je reçois des messages de gens qui me disent je n'ai pas lu depuis des années. Je suis tombé sur un petit extrait de Baudelaire ou de Sion. Ou n'importe quoi, j'ai adoré, j'ai acheté le livre le lendemain, ça me fait vraiment plaisir.
Je vais vous dire, votre Instagram, il me rassure sur votre Oedipe, parce qu'il y a pas mal de jeunes filles aussi que vous affichez.
Je mais vous ça, rassure, c'est un... sur son Oedipe, je vous rassure totalement, il va très très
si
bien.
Si je vous invite à une de ces soirées, vous n'hésitez pas.
Non, je suis beaucoup trop vieux, on ne me laisserait pas rentrer, on penserait que je viens chercher mes enfants. Merci à vous deux d'être venus ce soir, Louis Sarkozy.
Merci de votre invitation.
Et Cécilia Attia, ce livre s'appelle Une envie de désaccord, il est donc publié chez Plon. Merci.
Merci à vous.
RTL Soir, 18h48.
Dans un instant, c'est leur choix sur RTL.
Thomas Soto, RTL Soir.
Dès ce soir, retrouvez l'actualité de la Transat Jacques Vabre avec Quorum l'Épargne et suivez Nicolas Troussel et Jean Le Cam, skipper Quorum l'Épargne sur quorum.fr.
Sur les réseaux sociaux, réagissez à l'actualité avec le hashtag RTL Soir.